Bonjour et bienvenue à Espérance Aujourd'hui. Je m'appelle Ian et je suis heureux de vous retrouver. Espérance Aujourd'hui est une émission de réflexion biblique. Le livre de l'Exode tient une place très importante dans l'Ancien Testament et il nous aide à mieux comprendre l'œuvre de Jésus-Christ et la raison de la foi chrétienne. Lors de cette 8e série d'études consacrées au livre de l'Exode, nous abordons le chapitre 20. Il s'agit de l'un des chapitres les plus importants de toute la Bible, car il contient les 10 commandements. La dernière fois, en compagnie de Didier, nous avons étudié le 8e commandement, qui consiste en l'interdiction de voler. Aujourd'hui, nous allons aborder le 9e commandement. Didier est de retour parmi nous pour nous faire part de ses réflexions. Didier, bonjour.
Merci Yann, et bonjour à tous. Alors, ce 9e commandement donne un ordre formel. Tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain.
Et que peut-on dire de ce commandement ?
D'abord, je voudrais affirmer que ce commandement vise le bon fonctionnement des systèmes de justice. Ce sont les tribunaux qui ont pour responsabilité de discerner si une personne accusée d'un crime est coupable ou innocente. Mais comment prennent-ils une telle décision ? Souvent, la prise de cette décision repose sur les témoignages donnés par les témoins. Il est donc essentiel, pour garantir une juste décision, que les témoins disent la vérité. Il faut qu'ils apportent un témoignage juste et vrai. Si des personnes apportent de faux témoignages, des décisions injustes seront prises devant les tribunaux. À cause de ces faux témoignages, une personne innocente peut être déclarée coupable et elle aura à subir une peine qu'elle n'aurait jamais méritée. De même, suite à un faux témoignage, une personne coupable peut être déclarée innocente. Elle repartira libre du tribunal alors qu'elle mériterait une peine de prison ou une amende.
Oui, vu sous cet angle, nous constatons toute l'importance de ce commandement. Il est indispensable pour protéger le droit. Le mensonge doit être banni des tribunaux. Sinon, la confiance en la justice s'écroule.
C'est exact, Yann. Dieu est juste. Et il veut que la justice soit rendue sur la terre. Il veut que nos instances de justice reflètent sa justice. Ainsi, il est nécessaire de mettre en place des lois et des règlements pour que le système de justice fonctionne de manière aussi sûre que possible. C'est pour cette raison que, dans la plupart des pays, c'est un crime de rendre un faux témoignage devant les tribunaux. Et de ce fait, souvent, il faut prêter serment devant le juge pour affirmer que l'on va dire la vérité. Le faux témoignage consiste à dire, à proférer quelque chose qui n'est pas vrai. Mais il consiste aussi à cacher des vérités pertinentes, qui pourraient apporter de la lumière sur une affaire.
Merci Didier. Cependant, le faux témoignage n'est pas le seul problème qui touche à l'intégrité des instances de justice.
C'est vrai Yann. C'est pourquoi il est pertinent de parler de la justice de façon plus large. Malheureusement, souvent ceux qui possèdent des biens arrivent à manipuler les instances de justice en leur faveur, tandis que les pauvres et les démunis peuvent être privés d'un jugement juste ou victimes d'injustice. Il faut mener un combat pour s'assurer que les instances de justice défendent les droits de tous et qu'elles fonctionnent de façon impartiale et équitable. Dans la Bible, nous constatons que les prophètes dénoncent l'injustice et le mauvais fonctionnement des instances de justice. Les prophètes dénoncent l'injustice quand les tribunaux favorisent les riches aux dépens des pauvres. Ils dénoncent l'injustice quand les juges et les avocats acceptent de prendre des décisions injustes parce qu'ils ont reçu des pots de vin. Les prophètes dénoncent la corruption au sein des instances de justice. Ils insistent pour dire que le droit des personnes pauvres et vulnérables doit être respecté et défendu. Écoutons un exemple parmi beaucoup d'autres de ce qu'ont déclaré les prophètes. Il s'agit de la lecture du prophète Amos au chapitre 5, les versets 12 à 15.
Car je connais vos nombreux crimes et vos énormes fautes. Vous opprimez le juste, vous acceptez des pots de vin et vous lésez le droit des pauvres en justice. Aussi, l'homme avisé se tait en ce temps-ci, car ce temps est mauvais. Efforcez-vous de faire ce qui est bien et non ce qui est mal, afin que vous viviez, et qu'ainsi l'Éternel, Dieu des armées célestes, soit vraiment avec vous. Haïssez donc le mal, aimez ce qui est bien, et rétablissez le droit en justice.
De nos jours encore, nous avons besoin d'hommes et de femmes qui, comme le prophète Amos, cherchent à promouvoir la justice. Nous avons besoin d'hommes et de femmes au niveau de l'État qui désirent apporter de bonnes réformes dans les tribunaux, des réformes qui visent à assurer une justice impartiale et équitable pour tous.
Merci. Revenons au 9e commandement. Nous avons vu qu'il concerne nos instances de justice, mais est-ce qu'il concerne aussi nos relations envers notre prochain?
Oui, c'est vrai, Yann. Ce commandement concerne aussi notre attitude envers les autres. Car il faut l'avouer, ce que nous disons aux uns et aux autres au sujet de notre prochain, que ce soit un voisin, un collègue de travail, un frère ou une sœur à l'église, peut avoir un grand impact sur sa réputation. Nous savons également qu'une personne à qui l'on colle une mauvaise réputation peut rencontrer des difficultés dans la vie et il aura alors du mal à se débarrasser de cette renommée. Pour cette raison, il faut faire très attention à ce que l'on dit des autres. Ce 9e commandement vise non seulement à protéger le bon déroulement des instances de justice, mais il vise également à protéger la bonne réputation de notre prochain.
Quel comportement ce commandement vise-t-il alors?
Il est possible de nuire à la réputation d'une personne de plusieurs manières, en répandant des fausses rumeurs à son sujet, par exemple. Participer à des commérages injustes concernant notre voisin est également condamné par ce commandement. Certains peuvent présenter aussi leur prochain de manière défavorable, en racontant des choses qui ont un fond de vérité, mais en les exagérant largement, ou en les sortant de leur contexte. C'est trop facile de parler en mal de quelqu'un, en oubliant pourtant qu'il a aussi de bonnes qualités. Vous trouverez peut-être d'autres exemples, mais il faut l'avouer, il est très facile de nuire à la notoriété de quelqu'un.
Et pourquoi les gens répandent-ils ce genre de faux témoignages?
Leurs motivations sont diverses, mais quoi qu'elles soient, la Bible nous enseigne de bien mesurer la portée de nos paroles, de réfléchir aux conséquences de ce que nous disons. Parfois, nous aimons dire du mal d'une personne parce qu'elle nous a offensés ou blessés, ou parce que l'on vit des problèmes relationnels avec elle. Parfois, c'est la jalousie qui motive ces attaques ou le désir d'éliminer un rival. Toutefois, ce commandement nous rappelle que la réputation d'une personne est précieuse, mais aussi fragile. Nous devons donc faire très attention aux conséquences que nos paroles peuvent avoir.
Merci Didier de nous avoir éclairé sur le sens de ce 9e commandement. À présent, notre 2e invité, Claude, est de retour parmi nous. Il va lui aussi parler de faux témoignages, mais en s'appuyant sur le Nouveau Testament. Claude, bonjour.
Bonjour à tous. Nous avons déjà évoqué des dysfonctionnements que l'on peut trouver dans certaines instances de justice un peu partout dans le monde. À présent, je voudrais parler des événements qui ont conduit à la crucifixion de Jésus-Christ, car ils illustrent bien nos propos. En fait, les autorités religieuses juives voulaient se débarrasser de Jésus, car celui-ci remettait en question certaines de leurs traditions et pratiques. De plus, ces autorités se sentaient menacées par la popularité grandissante de Jésus. Elles voulaient s'accrocher à leur position de pouvoir et d'influence. Ces personnes affichaient une apparence pieuse et respectable, et pourtant la haine et la jalousie qui mijotaient dans leur cœur à l'encontre de Jésus les a conduits à désobéir au 9e commandement. Pourquoi? Parce que pour se débarrasser de Jésus, il fallait avoir recours aux instances de justice en vigueur. Seul l'État romain pouvait condamner une personne à la peine de mort. Et donc, il fallait convaincre les tribunaux juifs et le gouverneur romain de la culpabilité de Jésus. Et voilà que ces partis religieux se sont trouvés confrontés à un problème. Car Jésus n'était coupable de rien. Ces autorités religieuses ont donc eu recours à des témoins qui étaient prêts à apporter de faux témoignages. Il est vrai que ces témoins étaient peu convaincants et que le gouverneur romain n'a pas vraiment cru à leurs mensonges. Cependant, ces partis religieux se sont obstinés. Ils ont cherché à manipuler le gouverneur. Ils ont cherché à mettre le gouverneur sous pression en excitant une foule qui demandait la crucifixion de Jésus. Et le gouverneur a finalement cédé. Les instances de justice n'ont pas été à la hauteur de cette situation. Les hommes de pouvoir n'ont pas défendu le droit. Ils ont désobéi au 9e commandement. Et encore, de nos jours, les mêmes problèmes persistent. La politique se confond trop souvent avec la justice. De ce fait, la corruption est trop souvent présente dans les tribunaux. On cherche par tous les moyens à manipuler le cours de la justice en sa faveur. Et les grands perdants sont pour la plupart des gens sans pouvoir, pauvres et vulnérables, dont les droits ne sont ni défendus ni entendus. Nous devons travailler pour que cela change. Beaucoup, comme Jésus, ont souffert à cause de l'injustice des hommes. Et pourtant, je voudrais affirmer que le cas de Jésus est unique. Il est unique en ceci, à travers tout ce qu'il a souffert aux mains d'hommes hypocrites et cruels. Jésus accomplit une œuvre de salut merveilleuse. Les hommes injustes pensaient se débarrasser de Jésus, mais Jésus, quant à lui, s'est donné en sacrifice pour obtenir le pardon de nos innombrables fautes. Jésus, innocent de tout péché, a pris nos péchés sur lui, et il en a subi le châtiment divin. Du coup, si nous mettons notre foi en lui, nous ne subirons pas le châtiment divin. Non, au contraire, nous recevrons le pardon de Dieu, nous vivrons la paix de Dieu, nous renouerons une relation personnelle avec Dieu et nous hériterons de la vie éternelle. Malgré les intentions méchantes des hommes, Dieu, dans sa souveraineté, a accompli une œuvre de rédemption. Il accorde le salut à une grande multitude. Avez-vous, cher ami, désobéi au 9e commandement en apportant un faux témoignage contre votre prochain, que ce soit devant un tribunal ou répandant de fausses rumeurs ou ayant recours à des commérages? Nous vous exhortons alors à vous repentir de vos actes et à changer de comportement. Nous vous exhortons aussi à mettre votre foi en Jésus, qui a subi l'injustice à votre place et qui a subi la peine que vos fautes méritent. Auprès de lui, vous trouverez le pardon et l'opportunité d'un nouveau départ dans la vie.
Merci Claude pour toutes ces remarques pertinentes et pour ce rappel de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Nos deux invités seront de retour la prochaine fois pour poursuivre notre série au sujet des 10 commandements. Nous étudierons le dernier, celui qui interdit la convoitise. En attendant de vous retrouver bientôt, je vous dis au revoir et que Dieu vous bénisse.